nous avons eu mal compris l'heure de départ de cette réunion, mais nous sommes près de 10h du matin. Nous sommes ici et je m'appelle Steve Crocker et je suis à la tête du conseil d'administration. Nous allons parler avec le CCNSO et donc l'organisation de soutien aux politiques de code de pays et le conseil d'administration. Nous allons débattre, nous allons discuter. Christa Spain est à mes côtés. Christa Spain, je crois que nous allons être rejoints par la personne qui est donc représentante du CCNSO auprès du conseil d'administration. Et selon moi, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de donner au conseil d'administration la possibilité d'écouter ce que vous avez à l'esprit. Et nous avons quelques thèmes qui pourraient être couverts. Je vais les lire rapidement et ensuite passer la parole à Leslie pour orchestrer un petit peu toute la séance. Et les thèmes que nous avons reçus de la part du CCNSO, règles sur les conflits d'intérêts, finances de l'ICANN à la suite de la réunion de Singapour, fonctionnement du conseil d'administration, qu'est-ce qui va changer dans l'avenir et à l'avenir, utilisation du CCNSO, rapport sur le groupe Jazz, demande d'interprétation, y compris demande, plutôt interprétation des requêtes de la liaison auprès du conseil d'administration, recherche d'un nouveau PDG pour remplacer Rod Brexstrom et ligne de conduite éthique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Leslie Coley et je crois que nous avons ces questions du CCNSO et vous avez pu noter que nous avions des questions et des commentaires et je vais donc traiter cela, mais pour commencer, pour ceux d'entre nous qui étaient là à Singapour, nous avons vu qu'il y avait un grand intérêt pour le CCNSO au niveau financier et vraiment, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit à Singapour au sujet du budget de l'ICANN, le statut donc par rapport avec le directeur financier, le nouveau directeur financier que nous avons rencontré hier. J'aimerais que nous parlions un petit peu de cela. Merci beaucoup, Leslie. Bienvenue à vous tous ce matin. Et je vois que le CCNSO a beaucoup travaillé, comme vous le savez, comme vous en êtes bien conscient, au niveau financier, au niveau de la stratégie. Et je crois que vous l'avez vu, nous avons contribué à toutes les étapes. Il y a deux groupes de travail qui mettent l'accent sur ces activités. La planification opérationnelle qui fait beaucoup de travail au niveau des retours d'informations sur notamment les questions budgétaires qui se posent avec Rolla Mayer à sa tête. Et au niveau des finances, nous mettons l'accent sur la méthodologie des contributions, les montants des contributions pour le CCNSO, pour la communauté en général. Et je crois que cela a été un thème de discussion dans cette période d'intervention. Et je crois que à Wellington, nous en avons parlé il y a cela de nombreuses années. Donc, nous avons les différents types de modèles. Nous avons un modèle actuellement. Il y a d'autres modèles qui existent, d'autres méthodologies que nous pourrions utiliser au niveau du financement, y compris ce que nous utilisons actuellement. La raison pour laquelle nous effectuons cela, c'est pour nous assurer que nous sélectionnons la bonne avec les opérateurs CC, donc de pays, donc pour les politiques de code de pays. Et nous avons la structure de gouvernance qui est très souvent différente. Et il faut absolument que, quel que soit le modèle de sélectionner, il faut qu'il gère une perspective très large. Nous avons donc fait une analyse assez accomplie, assez raffinée pour la première fois. Et d'ici la prochaine réunion d'ICANN, nous essaierons d'obtenir un feedback à ce sujet pour voir ce qui est le plus approprié. Ça, c'est une piste, une voie d'ouverte. Le financement. Qu'est-ce que ICANN suggère au niveau de la communauté CC? Combien ça doit coûter à l'ICANN? Qu'est-ce que l'ICANN suggère au niveau budgétaire? Nous devons trouver la méthode la plus appropriée, la plus équitable au niveau des contributions, ainsi que la plus adéquate pour la structure CC. Donc ça, c'est à la fois des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. J'ai parlé à de nombreux représentants du conseil d'administration. Donc nous avons un excellent nouveau directeur financier. J'ai parlé à Xavier longuement, et c'est un garçon raisonnable, je crois. Très bon choix. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un nouveau. Il doit donc apprendre. Et il y a beaucoup de priorités à gérer. Et on n'est qu'un petit poisson. Il y a tant de questions qui se posent, technologie, environnement, équipe, qu'il doit apprendre à mieux connaître. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'une analyse poussée. Et nous en avons parlé. Je crois que nous allons améliorer la situation budgétaire et financière. Ça va prendre un petit peu de temps, puisque c'est un nouveau CFO, directeur financier. Avec son équipe, ils vont rentrer un petit peu plus dans les détails et travailler à leur analyse et voir exactement combien coûte la communauté CCNSO à ICANN. Donc, voilà un petit peu une mise à jour. Je crois que nous sommes encouragés pour le moment. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, que nous avons fait notre travail, mais nous devons donner un petit peu de temps à Xavier pour qu'il trouve ses marques. Donc, oui. Oui, je crois que vous avez pas posé une question et fait une très bonne mise au jour, mise au point de la situation. Voilà ce que nous faisons comme travail, et je pense que nous devons en effet observer une petite pause avec ce nouveau directeur financier, lui laisser le temps de comprendre comment fonctionne tout cela. Donc cela pose une question de calendrier, n'est-ce pas, que je dois poser au conseil d'administration. Oui, merci beaucoup Leslie et Byron. Deux points que j'aimerais soulever au sujet de cela. Eh bien, Xavier est là. C'est notre nouveau directeur financier, Xavier Calvez. Notre nouveau directeur financier, il n'y a pas de bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Il est une bonne nouvelle, et tout particulièrement en raison du fait que nous avons eu de nombreuses conversations avec votre groupe et d'autres groupes, des conversations très poussées avec Xavier et le conseil d'administration, et on a été bien conscients du fait que nous avions besoin de mieux comprendre le processus budgétaire et tous ces détails financiers qui se posaient. Où va l'argent? Comment est utilisé? Et présenter cela beaucoup mieux à la communauté. Et nous sommes là pour améliorer le processus financier et budgétaire de l'ICANN et notre système mécanique, qui est extrêmement important pour l'ICANN. Le fonctionnement, le traitement des données, tout simplement. Comprendre le modèle que nous utilisons, les besoins qui existent. Et Un des éléments de cela, c'est de s'assurer que nous comprenons bien les besoins des communautés que nous desservons et donc, Xavier, votre présence ici, votre engagement auprès des communautés fait partie du processus. Vous n'êtes pas là pour être un simple comptable, mais pour analyser ce qui doit être fait au niveau budgétaire et au niveau financier. Je sais que Charine veut intervenir, mais je ne sais pas si Xavier veut dire quelques mots. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Steve, de cette présentation aussi aimable. Je suis très heureux d'être ici. Ça fait 6 semaines que je suis arrivé à l'ICANN en tant que directeur financier. Et comme l'a dit Steve, mon travail, c'est d'améliorer et de mieux comprendre les besoins de la communauté. Et pour ce faire, pour faire un meilleur travail, d'avoir une structure financière améliorée qui sert mieux les communautés, comme Byron l'a expliqué. Il y a des changements qui vont prendre du temps, des modifications de conception qui seront difficiles au niveau structurel et complexe et long. C'est un défi à relever qui se présente à nous avec en plus un calendrier serré. Tandis que nous faisons ces modifications, nous devons continuer à gérer la situation et à assurer les progrès à court terme. Donc, c'est un travail en parallèle à court terme et à long terme. Je suis bien conscient que la question financière est très importante pour l'ICANN et je suis très heureux que nous ayons une communauté très engagée. Leslie et Byron, nous avons déjà beaucoup travaillé ensemble et vous m'avez écouté, ça a été très utile, je ferai de même avec toutes les parties prenantes. Donc, ce sera un processus constant et continu qui ne fait que commencer, ce sera avec plaisir que je travaillerai avec vous, que nous collaborerons et que nous aurons les rapports améliorés avec les différentes communautés de l'ICANN.
Merci. Je voudrais partager 2 sentiments. Ça fait longtemps que je regarde ce processus. J'ai écouté les dialogues pour voir quel était le coût, ce qui coûte quoi, ce qui est attribué aux communautés CC et les autres communautés. Je voulais aussi dire, je parle avec mon expérience. J'ai eu l'expérience de diriger une organisation plus petite mais parallèle et faire partie des comités consultatifs. J'ai essayé moi-même de faire des budgets. J'ai essayé de voir comment les choses rentrent dans les procédés du budget et ainsi de suite à l'intérieur de ICANN. Et j'étais embarrassée aussi. J'étais sur le comité financier avec des... Donc, moi, en connaissant tout ça, je ne sais encore pas comment ça marche. Je comprends la frustration. Je la comprends, cette frustration. Je comprends ces problèmes. 2 choses que je voudrais dire. L'idée que nous allons voir, par exemple, dans ce budget, quelles sont les dépenses, quelle portion est à nous. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses, c'est comme ça qu'on voit ce message. Comment est-ce que ça transparaît, comment la transparence des endroits qui nous concernent, les portions qui nous concernent, les portions que l'on puisse voir, celles qui sont appropriées pour nous, pour qu'on doit... Les portions qu'on doit payer, le coût de faire marcher, le coût de ICANN, c'est en agrégé, c'est un nombre que chiffre que vous pouvez voir tous les autres. Et ce sont un nombre de portions qui doivent être rassemblées, le coût des réunions, le coût des communications, etc. C'est une entreprise pour les adultes et tous d'entre vous, tous d'entre nous, nous sommes des gens matures, mûrs. Et on doit comprendre que On ne peut pas seulement dire moi je veux payer pour cette portion parce que c'est, je pense que c'est la seule chose qui est importante. Il y a des coûts partagés qui doivent être couverts d'une façon ou d'une autre. Nous pouvons avoir tous les débats que l'on veut pour voir si les montants appropriés sont dépensés dans un domaine ou un autre. On peut débattre ceci, si on a trop d'overhead, de telles structures et ainsi de suite. Il y a plein de débats qu'on peut avoir, mais à la fin de la journée, les réponses à ces questions sont, on a un profil de coûts et de dépenses qu'on doit vous donner d'une façon ou d'une autre. Et il faut bien qu'on s'en occupe. C'est une entreprise que l'on partage. Donc l'autre chose, c'est un sentiment qui est émergent. Nous avons eu un petit déjeuner aujourd'hui avec des anciens directeurs et nous avons dialogué. Et c'était intéressant. Un des sentiments qui a été partagé, c'était l'observation que une vaste portion de notre revenu arrive des registrants et des registres. Et que vous l'acceptiez ou pas, même si on essaye dur, enfin on essaye de façon importante de garder les choses neutres sur ce que nos parties prenantes ont vraiment. On suit leurs idées, ils ont le droit à leurs idées. Et c'est difficile pour nous d'aller contre ça. Il y a quelque chose que je voudrais vous offrir. Il y a une fraction notable du budget ICANN qui vient de la communauté CC. Et en aidant à équilibrer les intérêts, l'ensemble des intérêts, c'est peut-être quelque chose de différent. Ce n'est pas simplement de demander combien ça coûte pour que ICANN livre les services qui se voient envers vous. C'est juste une impression que j'ai eue, une observation que j'ai faite. C'est pas une conclusion, c'est juste une observation que j'ai faite après notre dialogue ce matin. C'est quelque chose que l'on doit, à quoi on doit penser. Et donc. Nous allons passer le micro à Erika. Non? Je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Donc, nous avons bien compris. Alors, je voulais juste dire, je voulais dire d'abord merci à Leslie Byron et pour venir ce matin et comprendre. Et je suppose Robloff aussi. C'était pas facile. Vous avez poussé le bouton très fort. Je comprends ça et j'apprécie. Je pense que c'était bon de donner le temps à Xavier de se mettre à jour avec le bureau. Donc il y a une chose que on veut pas venir arriver au mois de janvier et se trouver dans une situation frustrante. Où on s'était pas compris. Donc cet engagement que nous avons commencé avec Xavier, nous voulons continuer là-dessus jusqu'à ce que le bon cadre de travail soit mis en place. On a fait un bon travail, toutes les requêtes ne vont pas être rencontrées, mais si on va atteindre une bonne relation et une bonne compréhension, en fait, on est tous du même côté. C'est pas la peine de dire que nous ne sommes pas. En deuxième, j'ai vraiment apprécié le fait que Xavier soit avec nous. Il y a juste un problème. Pour nous, on ne sait pas comment prononcer son nom. Il y a des gens qui l'appellent Xavier. Il y en a qui l'appellent Xavier. Et on doit vraiment savoir exactement. On va peut-être l'appeler Xavier, qui veut dire sauveur en anglais. Alors, merci tout le monde. Merci pour nous comprendre. On doit se comprendre et si on se comprend, tout va bien. Je devrais avoir quelque chose à dire là-dessus, au fait. Si on veut vraiment rendre les choses faciles, tout le monde peut m'appeler X et puis moi, je répondrai. Sharon, si je voulais répondre brevement aux commentaires de Steve, je pense que l'attention du CCNSO, ça a toujours été d'avoir un dialogue informé. Et c'est exactement sur ce que nous travaillons, pardon. Donc, je voudrais suivre là-dessus. Je sais que Steve nous a laissé avec... avec du travail à faire. Est-ce qu'il y a une position du directoire ou une vue sur ce que le CC devrait contribuer? Seulement les coûts? Non, non. Je n'ai pas à chercher de coordination ou de conseil. Je sais qu'on n'en est pas là encore. Nous voulons vraiment que ce dialogue se passe comme vous le voulez. Nous le voulons comme vous. Rika, passe là-dessus, mais sur un point d'information. Ce que nous faisons, moi je suis au comité de l'audit. Ce que l'on a déjà commencé, c'est d'établir des normes standards, des normes complètes et d'établir des méthodes, une méthodologie de la façon à laquelle on audite. On va donc continuer. Nous essayons de regarder vis-à-vis des normes standards, des normes qui existent déjà, normes internationales qui existent déjà. Nous sommes une organisation un peu plus hybride, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut suivre. On ne peut pas juste suivre les normes des autres et les adopter. Mais il y a des choses, des méthodologies, des systèmes et des normes qui sont déjà là, qui devraient déjà bien travailler pour nous. Et la même chose est vraie pour beaucoup d'autres normes. Et c'est ce que nous faisons donc maintenant. Et nous allons avoir une compréhension claire bien avant les objectifs variés que nous avons en tête et que nous voulons les transformer en budget financier. Nous avons des clés sur lesquelles nous voulons travailler. Et ce serait bon, bien sûr, de pouvoir de l'avoir. Dès que nous avons une meilleure compréhension, ce serait bien d'avoir un échange avec vous, dès que nous pouvons le faire. Merci. Je vais appeler Chris et ensuite nous allons fermer sur ce sujet et continuer. Merci Steve. Je vais être rapide. Je voulais juste dire que l'on fasse attention. Il y a une tendance de caractériser le CCNSO, CC, le TLD et demander des chiffres. Si on dit que ce sera un truc pour essayer de ne pas payer plus cher. C'est pas ce que vous avez dit, mais vous voulez encourager plus d'argent. Il n'y a pas de difficulté dans la communauté CC pour qu'ils embrassent le fait qu'ils doivent faire une plus grande contribution pour la CAN. Nous n'avons aucune idée de ce que, en tant que CCSO, nous n'avons aucune idée de ce que ce devrait être. Ça devrait être. Oui, vrai, oui, mais mes excuses pour de faire ça. Je voulais juste indiquer que les débats particuliers qui a lieu en ce moment est historique. CC paye des frais qui, en fonction des services dont ils ont besoin. De façon à construire là-dessus, il faudrait avoir plus d'informations. Certainement, avec le niveau de mes collègues ici, dans cette salle, nous avons qui ont des fondations, qui peuvent fonder des initiatives variées. Je voudrais qu'on aille au-delà de comment on paie les frais maintenant. Je voudrais qu'on aille vers une initiative que ICANN pourrait suivre et qui pourrait coïncider parfaitement avec les fondations et les initiatives de tous les CC. Et c'est peut-être la communauté CC qui prendra un peu charge de ça en pensant à faire des fonds en commun et du co-banditariat pour les activités. Il y a d'autres choses additionnelles que nous devons faire parce que tout ce que ICANN fait n'est pas seulement donner des services, mais aussi il y a du bon travail qui est fait. Je suis de Dottenham. Je pense que vous avez un bon point, mais il y a un mais. Si les CC ou les ACC veulent fonder ou partiellement une autre initiative avec ICANN, il aura quand même besoin du coût de cette initiative. Je ne dénie pas ça. Oui, oui, les deux vont ensemble. Je comprends. Je voudrais clarifier. C'était la même question. Je ne dis pas. Faites-nous confiance. J'espère que vous le faites. Mais nous devons passer au-delà de ça. Nous devons suivre la construction, le patron que nous avons déjà en place pour faire partager les informations. Ce n'est pas seulement basé sur le style de service qui est reçu. Nous sommes sur la même page, Olaf. Ce n'est pas équivoque. Il faut que les informations soient transparentes et accessibles et compréhensibles, etc. Il ne faut pas qu'il y ait du tout de. Il n'y a pas de différence dans notre position. Nous pensons de la même façon. Oui. Ça n'a pas été encore annoncé qu'il y a eu un délai. Nous aimerions voir ce que M. X va travailler sur ces défis et peut-être revenir nous voir aux prochaines réunions. Je voudrais confirmer l'intérêt du CCNSO. C'est aussi un intérêt sur le plan stratégique. Ce n'est pas seulement sur ce que le CC va payer ou ne pas payer. Ce n'est pas seulement sur ce problème. Nous avons un engagement pour avoir un dialogue informé. Je voudrais qu'on se souvienne de ça. Merci. Je suis .mz. Un autre point. .nz, comme beaucoup d'autres registres, est une charité. Nos profits vont vers le développement social de l'Internet. Le plus nous avons à payer à quelqu'un, le moins on peut faire de notre côté. Merci, Sabine. Ça va être le dernier commentaire parce que nous avons encore deux autres sujets à parler. Nous avons deux autres sujets à discuter, pardon. C'est aussi un sujet qui est difficile, oui. En fait, on n'a pas de mauvais sujets, c'est que des bons sujets. Je voudrais faire un point, et Mike et Rolla vont en parler. Je ne pense pas que ça a toujours été le cas dans le passé, qu'on payait seulement pour les services. Il y avait toujours eu un moment où on voulait connaître et être d'accord sur ce qu'on payait. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites, mais la question est toujours combien. Il y a beaucoup de bonnes choses, je suis sûre, que quelqu'un puisse faire, mais jusqu'à une certaine limite, il n'y a jamais eu de négociation. On ne sait pas qu'a été alloué à CCTND. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Et où est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller discuter là-dessus? C'est aussi un autre problème important. On ne peut pas seulement savoir ce qui est payé pour les CCTND, mais qui définit ce qui est fait pour les CCTND. Merci. On va donc continuer sur notre prochain sujet. On parle donc des conflits d'intérêts et c'est une porte tournante. C'était une discussion qui a été assez difficile au niveau du conseil consultatif de CCNSO. Et donc, nous avons eu nous avons vu aussi que le bureau a élu des consultants de déontologie et nous voulons voir comment cela va travailler, puis nous aimerions avoir un délai, un calendrier. J'ai vu que Bruce Tompkins Bruce, est-ce qu'on peut vous demander de répondre à cette question? Oh, c'est difficile d'obtenir un micro. Où nous sommes là-dessus, sur ce sujet, c'est que nous devons avoir plus de données à la fin de la semaine. Donc, cette semaine, il y aura une session qui séance qui sera dédiée à ce conflit. On aura donc plus de détails à ce moment-là. Mais en 2 ou 3 minutes, je peux vous dire que le bureau de gouvernance, le comité de bureau de gouvernance a demandé pour des aides des conseillers externes. Ils ont 2-3 sources qui leur ont donné des conseils. On est en train de faire une révision des politiques qui doit être approuvée. On essaye aussi d'établir une politique déontologique de meilleure pratique. Il y a aussi des organisations similaires qui ont fait. On essaie de voir leur modèle et on va essayer de faire une ébauche. Et on prendra ensuite l'opinion publique en compte et nous ferons un résumé public. Et je m'attends à ce qu'on ait peut-être une mise à jour aux politiques et qu'on puisse établir une politique de déontologie, disons, en termes de mois, pas d'années. Mais on va essayer de vous donner des informations là-dessus plus tard cette semaine. Merci, Bruce. Donc la question du bureau au CCNSO, c'est... pardon, excusez-moi, je voudrais retourner la question. Combien de CCTLD d'opérateurs ont des politiques de déontologie on pourrait, dans votre communauté, ou est-ce que c'est équivalent? Peut-être une dizaine. Donc, on pourrait peut-être regarder à cette source-là, voir ce que vous avez déjà en place. En termes de temps, quand vous dites mois et pas année, je n'essaie pas d'essayer d'obtenir une date, mais est-ce que vous anticipez livrer ces étapes principales à l'avance ou est-ce qu'on peut s'attendre à un lancement? Si on parle de lancement, il n'y a pas eu de quand il y aura des votes qui se passeront pour les nouveaux GTLD, ce sera vraiment pas avant la fin de l'année prochaine. Si vous pensez de lancement au moment où vous pouvez déposer un dossier, je sais que c'est le 12 janvier. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose qui sera en place d'ici le 12 janvier, mais j'espère que nous allons mettre des mécanismes en place avant qu'il y ait, on puisse prendre des décisions, avant qu'il y ait un processus de décision qui soit fait par le bureau. En respect donc des votes pour les nouveaux GTLD. En référence à la question de Bruce, quels CCTLD, GTLD ont des codes des CCTLD ont des codes de conduite. Nous avons vu des secteurs où il y a la responsabilité, la transparence et les régulations sont des valeurs principales. Et personnellement, et l'intégrité est ce qu'on doit faire et pas ce que le code dit qu'on devrait faire. Et les choses se passent en ce moment. Et on sait qu'il est nécessaire d'avoir un code de conduite pour ICANN. Est-ce que ça veut dire que le bureau a conclu que quelque chose s'est mal passé, que quelque chose doit changer? Merci pour cette question, Warloff. Est-ce que je peux arrêter maintenant? Je m'attendais à oui, parce qu'il y a une autre question qui va suivre. Alors, mon autre question sera peut-être un petit peu différente. Je pense que la façon dans laquelle nous regardons l'évolution de ICANN en tant qu'organisation, on sait que ça s'élargit, il y a plus de matériel, plus de matériaux à plus d'informations. Si vous regardez notre dernière réunion, nous avions demandé à plusieurs membres de la communauté à Singapour, je crois, nous avions soulevé le sujet, nous avions regardé les aspects des politiques de conflit, des politiques de porte battante. Je pense qu'il n'y a pas eu un incident. Nous sommes ici, nous sommes partie de la communauté et nous répondons. C'est pour ajouter, en étant un... Je suis un résident du comité de gouvernance depuis quelque temps. Ce n'est pas un sujet pour le bureau de gouvernance. Il y a des choses que le bureau fait maintenant qu'il ne faisait pas il y a quelques années. C'est une chose qui suit. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas un sujet nouveau. Nous faisons un peu plus dans certains domaines maintenant qu'avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est un point qui nous concerne au bureau. Je ne sais pas si vous savez, mais à chaque réunion de bureau, quand nous discutons un sujet où nous savons qu'il est plus important de faire un vote, le directeur demande à tous les membres d'être volontaires et bénévoles dans tous les endroits où il y a des conflits, qu'ils aient des conflits en hâte ou pas.
Eh bien, Shireen et Mathia. Oui, quelques points que j'aimerais soulever. Premièrement, développer des lignes de conduite. Et il me semble que tous les efforts, pour le moment, que j'entends, sont tout à fait positifs. Nous en sommes bien conscients au conseil d'administration. Les conflits d'intérêts, les standards éthiques, nous prenons cela en compte d'une manière très sérieuse. Mais pour que ça fonctionne véritablement, il faut adhérer à ces politiques, il faut les respecter une fois qu'elles sont en vigueur. Parce que très souvent, on les lit, on signe le document des conflits d'intérêts, et on oublie cela. On n'en tient pas compte par la suite. Donc, même si l'on signe parfois ces notes, les personnes ne se sentent pas concernées par la suite. Donc je crois que ce qui est important, c'est de garder ce document, de lire, de le relire, et chaque année, de se rafraîchir la mémoire, pour que la prise de conscience soit plus forte. Et il me semble que c'est quelque chose dont nous sommes conscients et que nous essaierons de réaliser à l'avenir. Oui, merci, Mathieu Veil. Je suis de l'AFNIC et je suis le gérant de Point.fr et j'ai deux questions à ce niveau. Première question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pression sur ICANN de faire quelque chose, de faire preuve de plus de transparence et de responsabilité. Et il va y avoir beaucoup de pression avec le développement des nouveaux GTLD. Et ma question, donc, par rapport au calendrier, c'est allez-vous prendre des mesures avant que la ligne de conduite soit en place pour protéger, donc, par ces mesures, le processus, ou bien est-ce que la directive va s'appliquer au personnel également ou seulement aux membres du conseil d'administration? Oui. Merci, Mathieu. Ce sont des questions intéressantes et tu vois que le point principal, c'est que ce que nous avons appris ces derniers mois, avec les changements au niveau du personnel, avec les changements au niveau du board, du conseil d'administration et du directoire, c'est que nous sommes régis par les lois de Californie et il y a des fossés qui se sont creusés dans le cadre de notre conception multi-acteur. Nous devons vraiment élever les différents acteurs pour qu'ils deviennent des leaders, parce qu'ils viennent de cette collectivité, de cette communauté. Donc, personnellement, et je m'exprime en mon nom personnel, je n'ai jamais vu d'impropriété, de problème. Peter est dans cette commission. Si vous avez des doutes sérieux, posez-lui personnellement la question. Mais je crois qu'il y a quand même des fossés qui se creusent, des manques, des lacunes dans notre processus. Et en effet, nous avons ces portes battantes qui existent. Et il y a des rapports entre le board, le directoire et le personnel qui doivent être améliorés. Et je crois que si on prend en compte Bruce, qui travaille pour un registraire, on ne va pas lui dire de quitter son travail. Ça ne fait aucun sens. Et quand on quittera le directoire, il faudra bien qu'il continue à avoir un travail. Donc, il faut qu'on reconnaisse ses lacunes et qu'on fasse quelque chose, qu'on prenne des actions. Nous avons eu des consultants qui nous ont aidés. Je crois qu'il faut qu'ils fassent leur travail à fond. Il faut qu'on voit les résultats. Je crois que vous avez posé une question valide néanmoins, mais ça va prendre plus de 6 mois. On a peut-être besoin de mesures intérimaires. Ça dépend du temps que ça prendra. Donc, une autre partie de votre question, c'était les mesures par rapport au personnel. Je crois que les principes, ce seraient les mêmes. Je crois qu'il y a des petites différences quand même, parce que les membres du directoire doivent, comme l'a dit Mike, doivent venir des communautés, venir du secteur. Nous prenons en compte leur expérience. Donc, Rod, vous voulez intervenir au niveau du personnel, puisque c'est vous qui le gérez. Moi, je crois que le conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts, en effet, sont de plus en plus nombreux avec le nouveau programme des GTDLD. C'est très clair. Je suis plus préoccupé de cela. Et je crois que nous devons gérer l'éthique à tous les niveaux. Un exemple, nous avons, dans une réunion du personnel dimanche, nous avons parlé des conflits d'intérêts par rapport au nouveau GTLD et comment les membres de l'ICANN doivent être bien conscients et prudents et ne pas avoir de conversations individuelles avec des dépositaires de dossiers de demande, avec des candidats, et ne jamais accepter ne serait-ce qu'une boisson ou un repas provenant d'un candidat à un nouveau GTLD. Et cela devient de plus en plus difficile parce que traditionnellement, il y a une convivialité importante qui existe à l'ICANN, mais c'est très important d'évoluer. Et il me semble que le problème des conflits d'intérêts va être donc quelque chose qui peut remettre en cause le système multi-acteur. Les parties prenantes sont à la table, ils apportent leurs connaissances, leur expertise. C'est pour cela qu'il y a des lignes de conduite très sophistiquées qui proviennent de la communauté. Mais les parties prenantes ont des intérêts économiques, c'est très clair également. Comment est-ce que l'on peut avoir des membres de directoire qui ont des intérêts économiques? Comment on peut les empêcher de participer au débat, à la prise de décision? Ce n'est pas une décision facile à prendre. Et je crois qu'à l'avenir, ça va être difficile d'améliorer à la fois sur tous les fronts notre fonctionnement à l'ICANN. Et en mai, on saura tous les nouveaux GTLD et tous les dépositaires de dossiers de demande. Et je crois que ce sera très significatif. Il y aura beaucoup d'activités de lobbying, de pression, de groupes de pression auprès des membres du directoire pour obtenir ces GTLD, ces nouveaux noms de domaine de premier niveau, génériques. Donc, au niveau du personnel, c'est éduquer, former le personnel à fond, bien faire comprendre, bien faire régler et accepter et suivre ces règles. Et il est donc absolument interdit de payer des coûts au bar aux membres du personnel. Donc, nous allons passer à Bertrand. Nous avons d'autres personnes. Nous avons d'autres points à l'ordre du jour. Nous devons avancer un petit peu plus vite. Merci beaucoup, Leslie. Oui, une distinction que j'aimerais faire, qui est très importante ici dans ce débat, distinction au niveau des conflits d'intérêts et de cette porte battante dont vous avez parlé. Conflit d'intérêts, les activités des membres du conseil d'administration, tandis qu'ils sont membres du directoire, changent constamment en ce qui concerne les portes battantes. C'est ce qu'a dit Mike Sorber. Un des défis que nous avons à régler, nous tous, ce qu'il faut bien comprendre, quelle est la relation entre quelqu'un qui est membre du directoire et qui quitte le directoire. Quelqu'un qui est membre du directoire, dans le système actuel, peut travailler dans l'industrie, c'est très clair, dans le secteur. Nous avons cette ligne de conduite de conflit d'intérêts. Ce serait irrationnel que cette personne ne puisse pas par la suite travailler dans le secteur. Donc, le problème de la porte battante doit être distingué. Et ça, c'est un type de régulation qui existe au niveau national. Mais ce que j'aimerais dire, et c'est lancer une question générale, est-ce que nous devrions collectivement aller plus loin et affirmer l'indépendance des membres de directoire? Et est-ce que lorsque quelqu'un est membre de directoire, il devrait être ou elle devrait être totalement indépendant, et tandis qu'ils sont au directoire, devrait-il avoir une activité rémunérée dans le secteur? Moi, je lance la question d'une manière provocante un petit peu, parce que il y a une grande logique là-dedans. Si ICANN a une fonction de régulation, notre modèle qui est utilisé doit être pris en compte. Je ne dis pas qu'on doit aller aussi loin que cela, mais je crois qu'il faut y réfléchir. Je crois qu'il faut se poser la question. Je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus à l'aise par rapport à cette situation et voir en effet si ça change le concept même de modèle multi-acteur qui est celui de la CAN. Je crois également que nous devons prendre en compte un aspect pratique. La nature des directoires internationaux, les personnes vont et viennent, c'est très clair. On ne peut pas restreindre ce que les personnes font une fois qu'ils ont quitté le directoire. Une fois qu'ils sont membres du conseil d'administration, du directoire, il faut qu'ils prennent des décisions sans qu'il y ait de conflit d'intérêts. S'ils ont un conflit d'intérêts, ils ne prennent pas de décision, ils s'abstiennent. Ce sont des standards éthiques qui doivent être absolument respectés. Et troisièmement, ils ne doivent jamais faire un abus d'informations confidentielles. C'est un délit d'initié. Une fois qu'ils ont quitté le directoire, si ce sont des membres exemplaires du directoire qui n'ont pas été pris en faute, eh bien, on ne peut pas se permettre de restreindre ce qu'ils font une fois qu'ils ont quitté le directoire. Nous avons un commentaire. Bref, j'espère, nous devons poursuivre notre séance et traiter d'autres points. Donc, soyez bref. Pour réagir par rapport à ce qu'a dit Bernard, moi, je préférerais un modèle un petit peu différent. Je préférerais que les membres du directoire ne viennent pas des entreprises, comme c'est le cas actuellement. Mais je vois un conflit d'intérêts avec les registraires qui sont membres du directoire. Je crois qu'on a quand même quelques procédures en place qui sont valides. On a parlé de ces portes battantes, de cet aspect-là, et il me semble qu'il n'y a pas assez de sauvegarde et de protection pour éviter que nous nous réduisions la confiance placée en nous par les multi-acteurs et parties prenantes qui existent à l'ICANN. Tant qu'il n'y a pas de preuves de comportement frauduleux, mais c'est l'impression que ça donne qui est un problème. Les multi-acteurs, les parties prenantes ont l'impression qu'il y a des conflits d'intérêts qui existent avec les membres du directoire. Merci Orloff. Nous allons passer au dernier commentaire. Je crois qu'il est important que, en effet, cette question intéresse beaucoup le CCNSO. C'est bien d'entendre vos interventions et que le directoire prenne note, oui. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, parce que ICANN est un modèle multipartite. Les membres de directoire doivent être exemplaires, mais l'exemple qui a été donné de Peter, je ne suggère rien. La raison pour laquelle il n'y a pas d'inquiétude du fait que Bruce reparte dans la même entreprise où il était auparavant. L'impression que ça donne, quand même, que ça nous donne, ça dit quelque chose au sujet du besoin qui existe de certaines normes et règles que les membres du directoire, même une fois qu'ils quittent le directoire en fin de mandat, lorsqu'ils étaient membres du directoire, ils avaient accès à des informations privilégiées. Ils étaient initiés. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète. Nous avons donc besoin de normes, de standards, de meilleures pratiques très claires. L'accès aux informations privilégiées par les membres du directoire est un point essentiel. Oui, deux points que j'aimerais souligner. En ce qui concerne l'accès aux informations privilégiées, nous avons des règles très précises qui incluent des conséquences si jamais elles sont violées. Et c'est très précis et en fait toutes les informations sont publiques, croyez-moi. Il y a des questions du personnel, questions internes qui sont confidentielles, mais c'est tout. Croyez-moi, il y a très peu d'informations privilégiées qui passent entre les mains du directoire. Mais permettez-moi de vous demander, à vous tous, tous ceux qui voudraient partager donc vos lignes de conduite sur les conflits d'intérêts pour que l'on voit un petit peu à quoi elles ressemblent, qu'on puisse s'en inspirer, et nous montrer clairement des éléments, des textes statutaires qui pourraient nous aider. Bruce est vice-président, donc il va donc se charger de cela également, il fait partie de ses responsabilités. Donc nous enverrons un email, un courriel à Bruce, on vous enverra un courriel à Bruce avec des exemples de textes de régulant les conflits d'intérêts. Donc merci beaucoup, oui, d'accord, très bien, donc c'est clair. Très bien, merci. Voilà, continuons, poursuivons, passons au point suivant. Question du CCNSO, le thème hein, du groupe d'interprétation, du cadre d'interprétation. Nous allons vous donner une mise à jour par email. C'est un travail long et fastidieux. David n'est pas ici à Dakar, mais je serais heureux de vous indiquer que Becky Burr est présente et peut répondre à vos questions. Nous avons fait deux demandes, une liaison du directoire avec ce groupe de travail, et que le board directoire revienne sur cette décision concernant l'accord de parrainage. Je crois que on peut répondre à cela hors ligne. Je crois que nous nous inquiétons beaucoup de ce cadre d'interprétation qui peut faire beaucoup pour faire progresser l'association. Et donc, nous pensons donc, et je suis responsable de cela, nous avons été un petit peu en retard au niveau de cette décision. Je suis désolé de ne pas avoir pris cela en compte plus rapidement. Nous allons nous pencher là-dessus rapidement cette semaine et tenter de statuer. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris peut-être... Ah, vous avez un document. Qu'est-ce que vous voulez dire par parrainage? Moi, je n'ai pas compris non plus le terme parrainage, sponsorship, qui a été utilisé. Donc voilà, il y a un texte écrit. On pourrait parler de cela pendant des heures, figurez-vous. Il y a une demande qui est envoyée à Steve la semaine dernière, mais je crois qu'on en parlera de manière non officielle. Nous nous inquiétons beaucoup de cela. Oui, c'est des accords de parrainage dans les... on en parlera plus tard, au sujet de base de données. Donc, ma première question serait, est-ce que... cela a à voir avec le cadre de référence et d'interprétation. Je crois qu'il faut que je lise ça précisément et que nous revenions plus précisément sur cette question. Donc, il nous reste seulement 7 minutes et le board demande au CCNSO des informations sur la recherche d'un nouveau PDG en ce qui concerne la transparence du processus de recherche et sur la liste des questions du CCNSO au directoire, nous demandons une mise à jour d'où on en est pour la recherche d'un nouveau PDG.
Merci, Leslie. Je sais que vous avez résumé le problème assez bien. Nous avions une réunion hier et assez longue et j'ai présenté la position du bureau sur les requêtes pour un PDG idéal. Nous avons eu beaucoup d'informations qui est venue de la communauté qui participait à cette séance. Nous encourageons tout le monde qui souhaite soumettre des commentaires. Nous sommes 8 en tant que membres votants. Le bureau sera très, très inclus, très engagé sur la recherche. Nous allons embaucher une entreprise qui va nous aider à chercher cette personne, pas pour prendre la décision, mais pour participer à la décision. Nous prendrons la décision. Nous avons publié une adresse email qui c'est CEO SEARCH 2012. Envoyez vos opinions à cette adresse et nous prendrons tout cela en compte durant notre travail. Quand il s'agit d'un délai, nous essayons de commencer cette recherche à partir du début de décembre et nous espérons terminer et avoir un nouveau PDG, au 1er juillet. Si nous pouvons le faire plus rapidement, nous le ferons. Sinon, si nous devons ralentir pour faire une bonne recherche et faire un bon travail, nous ferons ça aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais enfin, c'est un processus assez simple que nous utilisons. Nous garderons la communauté bien informée le mieux possible. Nous voulons que cette recherche soit très transparente et bien comprise par la communauté. Merci, Georges. Le CCNSO... Peut-être pas tous entre nous n'étaient pas à la séance d'hier. On nous a demandé nos idées sur la qualité et l'ouverture, les qualités et l'ouverture d'esprit de transparence des processus. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre là-dessus? C'est juste un commentaire sur la transparence du processus. Le processus doit être clair et transparent, bien sûr, avec les grandes étapes qui doivent être identifiées. Et on doit savoir quels sont les éléments de ce processus. Je pense que jusqu'à présent, ça se passe assez bien. Mais aussi, il faut penser que comment on souligne ces étapes importantes sur le chemin. Il y a une grande liste. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qui se passe. Mais d'après les commentaires que j'ai entendus hier, je pense que je voudrais décourager cette transparence en nommant des noms. Je pense que c'est mal guidé de ce côté-là. Je ne voudrais pas que quelqu'un ici qui pourrait contempler ce rôle me dirait « Oh, ben, si j'allais faire une demande de cette position, je ne voudrais pas que mon employeur sache que je cherche un autre travail. » Donc, je pense que je recommanderais de la non-transparence à ce sujet. Dans les termes des éléments qui sont importants, regarde. Le prochain PDG doit être être fort dans ses moyens pour construire une organisation puissante. Il doit être quelqu'un organisé avec de très bonnes capacités diplomatiques, mais pas nécessairement être un diplomate. Il doit vraiment être fort au niveau de l'organisation. Construction de l'organisation. Quand il s'agit de la transparence, je suis d'accord avec vous. Quand j'ai partagé les principes sont. Le principe était que le processus serait complètement public, mais que les données des applicants seraient confidentielles. Le comité a une existence de 10 jours. Il y a des tas de choses que nous devons encore faire, qui doivent être encore dites. Je suis ça de point DK. Je suis curieuse parce que quand on a embauché Walt, on a établi un bureau à Palo Alto. Qu'est-ce qui va se passer avec ce bureau? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir un nouveau bureau qui correspondra au prochain PDG? Oui, c'est une question qui est déjà venue, s'est déjà posée. Le bureau au Palo Alto a quelques personnes qui travaillent déjà là-bas, qui sont très actives et qui sont des membres importants du personnel. Donc, il n'y a aucun plan pour changer cela. La question d'ouvrir de nouveaux bureaux. Et de l'autre côté de ce débat, c'est pour pouvoir savoir où le PDG va se trouver. C'est une des questions que le comité va suivre. comme on dit, on est dans les premiers jours de ce comité. On n'a pas encore fait d'annonce. Cette question a été posée et elle sera répondue très prochainement. Les gens qui posent cette question, hier on nous a posé la question deux fois. Les gens, pourquoi ne donneraient-ils pas leur feedback? Moi, ce qu'ils pourraient penser, ou si le PDG devrait être basé à Marina del Rey, ou il voudrait être. Donnez-nous votre feedback. Au lieu de poser des questions, ce serait bien que ce serait très utile pour la comité de recherche du PDG. C'est une bonne idée. Vous voulez revenir sur ce sujet, Lisa? Je suis désolée que je répète la question, mais mon inquiétude, c'est que je voudrais que ICANN soit multi-représentée ou qu'elle ait des bureaux dans plusieurs endroits. Et vous avez déjà deux bureaux en Californie, et ça, c'est la raison pour laquelle je pose la question. Mes excuses, j'ai sauté un peu au-dessus de votre question. Ce n'est pas la même question que celle d'hier. Le point qui est valide, et il va le répondre. Oui, je pense que, s'il vous plaît, je suis d'accord avec vous, Mike. Si vous avez une opinion là-dessus, au lieu de demander, de poser une question, donnez-nous votre opinion. Nous aimerions l'entendre. OK. Nous n'avons pas assez de temps, donc une autre question. Merci. Je suis d'Afrique du Sud. Une question. Comprendre les normes, les standards. Ainsi, un PDG qui a été avec nous pour un peu moins de 2 ans et qui va en faire 3 et amener un nombre d'appointments seniors. Est-ce qu'il y a un plan pour gérer le départ des positions seniors? Parce que aujourd'hui, dans le monde du business, un PDG arrive avec une équipe et il part. Quelques personnes vont partir avec lui. Il y a donc un processus à gérer le départ de ces gens potentiels et aussi la personne qui s'en va. Je pense qu'il y avait une place pour les vice-présidents en Europe, par exemple. Et puis après, ça a été décliné. Il y a eu un vice-président pour l'Afrique, encore. Ça pose une question. C'est cette approche du vice-président, c'est la vision de qui? Est-ce que c'est le PDG qui sort ou s'il est pour partir? Alors, l'approche, elle vient de qui? Le prochain PDG? Alors, donc, la question est à propos des gens élus, des élus seniors sur le bureau. Ce sont des questions naturelles, normales et sensibles. On va donc diviser ça en 2 ou 3 phases dont vous avez parlé. Donc, la première chose, c'est que M. Backstrom a amené des gens avec lui. Aucun d'entre eux ne faisait partie de son équipe avant, ou des gens avec qui il travaillait avant. Une des choses importantes que pouvons vous dire de son mandat, c'est qu'il a fait un processus de recrutement très fort, très puissant, très détaillé, et des processus de recherche très détaillés, très forts. Je sais parce que je l'ai regardé, j'ai observé le travail qu'ils ont fait. Il y avait un grand niveau de coordination, des gens qui sont vraiment engagés dans l'organisation. Ce ne sont pas seulement des assistants. On ne peut pas dire ça de cette façon. Je ne sais pas si certains d'entre vous restent ou vont partir. C'est une grande question. C'est une question individuelle. Nous n'anticipons pas qu'il y aura vraiment une sortie en masse de ce personnel. Nous regardons ça de façon passionnée. Chacune de ces personnes, le personnel, pense très bien. Ce sont des gens engagés, sensibles et qui doivent gagner leur vie. Ils ne vont pas juste comme ça à l'aveuglette faire des changements arbitraires parce que le PDG s'en va. Ça va leur changer leur environnement, ça va peut-être leur coûter un peu, mais je pense que tous se sont bien engagés dans leur travail, engagés vis-à-vis de l'organisation. La prochaine question, quel est notre processus d'embauche pour la position du PDG? Est-ce qu'il y a une stratégie en place qui dépend sur la position de notre PDG présent? Est-ce que ça va changer avec le prochain PDG? Non, c'est important, c'est une bonne question, bien sûr. Le bureau est d'accord avec cette stratégie. Ce n'est pas une... C'est pas une décision unilatérale, une vision de M. Bergstrom. C'est un sujet stratégique. C'est social. Nous ne pouvons pas arrêter tout ce que nous faisons. Nous avons l'avantage, nous sommes dans une bonne position d'avoir une période de temps substantielle pour pouvoir avoir un procédé de recherche, ce qui veut dire que cette période de transition nous donne assez de temps. Nous ne pouvons pas arrêter tout ce que nous faisons. Nous avons des opérations compliquées en cours, nous avons des obligations, nous devons remplir des positions clés et nous devons continuer sur le chemin que nous avons commencé. Il n'y a donc pas d'accouplement spéciaux entre la décision que Rod a prise dans la recherche d'un remplacement. On ne va pas arrêter le monde et arrêter tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y aura des différences d'opinion? Est-ce qu'il y aura des changements de sentiments? Oui, bien sûr, absolument. Est-ce qu'on anticipe quoi que ce soit? Est-ce qu'on connaît les choses à l'avance? Oui, ben, si les choses se passent, on en parlera. On essaiera de résoudre les problèmes en douceur. On va essayer d'être aussi sensible que possible dans les situations qui vont venir. Je pense qu'il n'y a rien d'étrange dans cette position. Merci. Merci tout le monde pour cette séance. Nous devons la terminer. Le CCNSO, pour tous entre vous, nous revenons dans l'amphithéâtre pour parler du plan stratégique. Mais avant cela, nous allons prendre une pause café pour 10 minutes jusqu'à un quart d'heure après l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Je voudrais dire que dans ces engagements qui sont sur l'ordre du jour du bureau, et nous avons été très intéressés. Je pense que c'est un exemple clé pour un dialogue de substance. Ce n'est pas juste un dialogue, on est content de vous voir. Nous avons la volonté de rentrer dans les problèmes qui veulent dire quelque chose. Nous avons fait ça aujourd'hui, ça nous a beaucoup aidé. Nous apprécions cela énormément. Je vous remercie.